Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mardi, René Friedman, spécialiste de la reproduction, propose avec ses invités de faire le lien entre médecine et société.
Discussion du soir, une émission de René Friedman en partenariat avec le journal Le Quotidien du Médecin. Et aujourd'hui, nous serons en compagnie de Paul-André Rosenthal. Paul-André Rosenthal, vous êtes professeur à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut National des Études Démographiques. Et vous êtes consacré jusqu'à présent à l'histoire sociale et politique des populations. Vous avez publié l'intelligence démographique chez Odile Jacob en 2003. Santé au travail, la découverte en 2006, et tout récemment, puis j'en oublie sûrement parce qu'il y a beaucoup d'articles en plus, mais tout récemment, ce livre m'a attiré, Les destins de l'eugénisme, publié au Seuil en 2016, donc tout récent. Vous racontez comment, dans les années 2000, alors que le directeur de l'INED, François Hérin, ouvre ses archives, après une discussion, un combat, je crois, il y avait des tensions. On en parlera d'ailleurs un peu des tensions au sein de cet institut, quelques conflits idéologiques. Vous tombez en fait sur une affiche qui vante l'expérience des jardins de Ungemach. C'est à Strasbourg, au pied de, pas loin de, du Parlement européen, donc en plein centre. Et c'est une expérience eugénésique ou eugénique, on va en discuter ensemble, qui est proposée en 1923 et qui va durer jusqu'en 1980. Alors pour le chercheur que vous êtes, Paul-André Rosenthal, voilà, vous avez bondi sur cette affiche et vous avez découvert un petit peu au fil de vos études la réalité de cette expérience-là. Vous avez été absolument surpris qu'une chose comme ça puisse exister en France.
J'ai été surpris et je dirais même que donc tout est parti, comme vous l'avez dit, d'un document, une affiche, alors que je travaillais au début des années 2000 dans les archives de l'INED, qui venait tout juste de s'ouvrir, comme vous l'avez rappelé. Et je travaillais dans l'un des cartons laissés par l'un des chercheurs de l'INED, Louis Henry, un grand démographe, fondateur de la démographie historique. Et donc, je dépouillais des archives tout à fait classiques et tout d'un coup, je tombe sur un document plié, très bizarre, très épais. Je le déplie et c'était une affiche, une immense affiche. Elle doit faire près de 2 mètres de haut. On appellerait ça aujourd'hui un poster destiné à être exhibé dans des grandes conférences. Et j'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'une affiche qui circulait dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, dans les expositions d'hygiène. Expositions d'hygiène, expositions internationales, qui à l'époque drainaient un public absolument considérable.
Hein. Oui, on ne se rend pas bien compte.
La plus grande d'entre elles, à Dresde, avant la Première Guerre mondiale, draine 5,5 millions de personnes. Hein. On est dans une époque dans laquelle l'hygiène, c'est très concret, c'est la protection contre des maladies contagieuses face auxquelles on est assez démunis. Donc il y a une véritable préoccupation pour soi-même, pour les enfants, etc. Donc je déplie cette affiche et cette affiche nous vante les résultats statistiques obtenus dans un quartier de Strasbourg, là, une cité-jardin appelée Ungemach. Et cette affiche vante statistiquement le taux de fécondité, le taux de natalité obtenu par les résidents de cette cité-jardin, la taille et le poids de leurs enfants, et elle vante également les notes d'ordre et de propreté des résidents sous forme statistique. Et puis surtout, elle nous parle d'un laboratoire humain, c'est le terme qui est employé, et elle se termine par une petite conclusion qui donne les objectifs de cette expérience, parce que c'est pensé comme une expérience, à savoir contribuer à l'accélération de l'évolution humaine. Donc pour l'historien que je suis, travaillant en particulier sur la France du XXe siècle, cela a été une surprise radicale et une incompréhension. C'est-à-dire que je suis quand même habitué dans notre domaine à savoir à peu près se repérer. Il y a rarement des grandes surprises. Et là, j'étais véritablement dans l'incompréhension. Et c'est cette incompréhension qui m'a semblé digne d'intérêt, qui m'a semblé justifier une recherche.
Et que nous partageons avec vous, Paul-André Rosenthal, effectivement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une offre de logements sociaux très particulier, puisque les loyers sont préférentiels par rapport à ce qui existe. Mais surtout, il va y avoir une sélection, qui se veut scientifique, des résidents, qui va être jugée sur le niveau de revenu, sur leur potentiel de fécondité, sur l'âge des candidats, sur la durée de l'union et du statut de l'épouse. En particulier, il est recommandé qu'elle ne travaille pas pour pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants. Et alors, l'architecture même de ces maisons, et que vous détaillez d'ailleurs dans le livre, est assez étonnante. C'est un peu, ça se réfère à Michel Foucault avant l'heure, Michel Foucault dans sa surveillance des prisons. Et ben là, on a un peu une volonté panoptique également, puisqu'on veut que la ménagère surveille, en même temps qu'elle prépare la cuisine, elle surveille ses enfants. Enfin, tout est conçu pour la reproduction. Alors évidemment, ça m'a interpellé. Et cette sélection, qu'on va venir en discussion ensemble, elle va durer à peu près 60 ans. Elle va passer la Deuxième Guerre mondiale, elle va continuer, on va voir les transformations que cela comporte. Alors c'est vrai que on est quand même à une période très particulière, hein. On est après la Première Guerre mondiale, il y a donc eu l'hécatombe, l'Alsace retourne dans le giron, on a une réglementation qui s'impose, qui est celle des 8 heures de travail, donc il laisse un peu plus de temps par rapport à ce que c'était auparavant, pour la vie familiale. On développe l'idée du jardin potager pour être autosuffisant. Et puis, parallèlement à ça, c'est vrai que c'est la grande période du prix Cognac Jay, hein, par exemple, qui a été créé en 1922. Alors, c'est vrai que Cognac Jay, c'est donc la Samaritaine, enfin, c'est les propriétaires de la Samaritaine, ce couple sans enfants, qui va créer ce prix pour favoriser, et on va en discuter tout à l'heure, faut-il favoriser les familles déjà nombreuses ou favoriser les couples qui veulent devenir des familles nombreuses. Mais en tous les cas, il va y avoir un prix donc qui va durer aussi un certain temps. Donc on est dans toute une ambiance nataliste, hein, on va dire, populationniste, on verra le sens de ces mots. Mais évidemment, ce qui est absolument surprenant, c'est les clauses proposées aux candidats à la location de ces petits espaces merveilleux, d'ailleurs, c'est la clause de progéniture ou bien l'injonction à la procréation.
Effectivement, j'ai commencé progressivement à tirer les fils qui se nouaient dans cette affiche que j'avais découverte par hasard. Le premier des fils, c'est le cadre architectural, urbanistique, c'est-à-dire celui, le cadre d'une cité-jardin. Donc là, je pense qu'il faut bien le comprendre. La cité-jardin, c'est un mode d'organisation urbain qui se développe à partir du tout début du XXe siècle, d'abord en Angleterre, et avec une volonté politique qui est d'essayer d'aménager la croissance urbaine, qui est très forte à l'époque, hein, l'immigration intérieure, ce qu'on appelle l'exode rural plus tard, est déjà très fort, et est accompagné, du point de vue des élites, d'une perception, d'une menace envers l'ordre social. Et donc l'une des réponses, il y a énormément de réponses qui sont données, mais l'une d'entre elles consiste à bâtir des cités-jardins qui ont pour but, pourrait-on dire, d'acclimater, de civiliser les travailleurs, en particulier l'accession à une petite maison, à un jardin, qui est doté d'une mission civilisatrice, d'une vertu civilisatrice.
Alors, c'est les travailleurs, mais c'est quand même des travailleurs déjà élevés dans le rang social. C'est pas les tout premiers.
Alors voilà, première tension.
C'est pas les cités ouvrières, quoi.
Alors, dans le cas exactement, première grande question politique sur cette cité jardin Ungemarkt de Strasbourg, à qui va-t-elle s'adresser ? Elle s'adresse à ce milieu qui a été identifié statistiquement en France depuis la fin du XIXe siècle, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la petite bourgeoisie, la toute petite bourgeoisie, disons les fractions, disons les ouvriers qualifiés et les petits employés, que l'on part de grandes vertus politiques et morales, c'est-à-dire d'être des classes modestes économiquement, mais prévoyantes, ce qui est une grande vertu à une époque où il n'y a pas de système de protection sociale. On considère que c'est par la prévoyance que les ménages doivent se parer contre les risques de maladie, ensuite la vieillesse, etc. Et pour se parer face aux risques, ils réduisent leur fécondité. Ça, on le sait depuis la fin du XIXe siècle. C'est la phrase fameuse qu'emploiera Pierre Bourdieu bien plus tard. Le petit bourgeois se fait petit pour devenir bourgeois, donc on réduit la fécondité. Et donc, l'idée du fondateur, du concepteur de cette cité Ungemark, qui s'appelle Alfred Dachert, on y reviendra peut-être.
On y reviendra, oui, bien sûr.
Son idée, c'est de dire, il faut absolument faire reproduire davantage cette classe particulière, hein, cette toute petite bourgeoisie. Il faut essayer de l'aider à se reproduire davantage. Parce que c'est là que sont concentrées un certain nombre de vertus morales qui peinent à s'exprimer dans la société contemporaine.
Alors, ce qui est étonnant dans la sélection de cette catégorie, justement, c'est que il va y avoir, et vous le publiez d'ailleurs dans votre livre, toutes les fiches où on va noter les points pour que on puisse savoir si tel couple est accepté ou n'est pas accepté. C'est une vraie sélection socio-morale, avec par exemple des bonus, hein, si déjà il y a un enfant, c'est 20 points de plus, puis des malus, s'ils sont en mauvais état de santé, ce qui laisserait penser qu'ils auront du mal à se reproduire, ou bien qu'il y a une tare dans la famille. Et là, on retombe vraiment sur la notion d'eugénisme et de la reproduction. On va voir ensuite, bien sûr, les dérives qu'il y a pu y avoir là-dessus. Mais donc, on a quelque chose de tranquille qui s'installe dans ces objectifs-là. Et comme vous l'avez signalé, c'est un laboratoire humain, un terrain d'expérience, une pépinière de cadres amenée à progresser donc rapidement. Et tout ça est conçu pour protéger la sérénité des géniteurs. C'est assez génial, je trouve. Hein, on n'est pas dans les Liebersborn nazis, hein, de la reproduction. On est dans le calme tranquille d'une bourgeoisie que vous avez énoncée. Alors, les protagonistes, parce que c'est quand même, c'est des hommes qui sont à la source de tout ça, des hommes des institutions, on va y venir. D'abord le premier, Léon Ungemar.
Alors, Léon Ungemar est l'homme qui donne son nom à cette cité-jardin. Léon Ungemar, c'est un industriel alsacien. C'est
le roi local de la conserve alimentaire.
Absolument. Voilà. Hein, il y a des, à Strasbourg, mais surtout à Schiltigheim, il y a des grandes usines de conserve alimentaire. Ungemar, c'est un homme qui a plusieurs filiales, et l'une de ses filiales est dirigée par un homme d'affaires très efficace qui s'appelle Alfred Dachert. C'est une confiserie, hein, qui fabrique des bonbons L'Oreal, hein. Les plus âgés d'entre vos auditeurs se rappelleront sans doute soit les bonbons L'Oreal, soit leur rivaux qui était la Piquichante,
hein,
qui a été fabriquée pour contrer les bonbons L'Oreal. Donc c'est une grosse confiserie.
On va venir sur Alfred Dachert, parce que c'est un monde. Mais Léon Ungemar, donc lui, va initier ça, va décéder assez rapidement après le début de l'expérience en 1928, alors que Alfred Dachert, lui, va continuer jusqu'en 1972. C'est pas rien. Parmi les autres protagonistes, on va dire, il y a le premier maire socialiste de Strasbourg, Jacques Perrotte, qui va aider, qui va appuyer en tous les cas ce projet. Et puis qui va créer donc, enfin va être créée cette fondation Ungemar avec Alfred Dachert. Alors c'est un établissement, cette fondation, qui va être reconnue d'utilité publique, hein, qui va être tout à fait légale et même soutenue par plusieurs personnes du gouvernement, Paul Pelevé, tout ça, qui vont passer les voir. Mais ce qui est assez fantastique, c'est elle qui est responsable de la sélection, de l'inspection. Du bien fondé de continuer à résider dans cette cité, si en tous les cas on a produit les effets voulus, c'est-à-dire des enfants en bonne santé.
Voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat privé-public. Jacques Perrotte, héritier de la social-démocratie allemande, qui donnait beaucoup d'autonomie aux villes. La question des villes est très importante
dans
cette histoire.
L'organisation de la cité.
Parce que pour beaucoup de réformateurs sociaux en ce début de XXe siècle, la ville est un lieu d'expérimentation. Hein. L'idée de laboratoire, elle est assez familière à l'époque. Et l'idée, c'est les problèmes sociaux se déroulent dans la ville et il faut essayer de trouver dans la ville des solutions d'expérimentation, notamment locale, en tout cas innovatrice, pour essayer de régler la question sociale. C'est beaucoup moins au cadre dans le cadre national que ça se joue. Jacques Perrotte est donc l'héritier de cette social-démocratie allemande qui a fait se développer Strasbourg. C'est un grand urbaniste, hein, un maire bâtisseur et un maire qui développe également le logement social. C'est par ailleurs un élu, et donc comme beaucoup d'élus, il cherche à se faire réélire le plus régulièrement possible.
Il va le faire d'ailleurs pendant 16 ans. Hein.
Voilà, oui, c'est un grand maire de Strasbourg. Et donc la politique de logement social qu'il développe a aussi pour but de viser des couches sociales qui vont lui apporter des voix. Et donc il conçoit une politique de logement social très stratifiée, hein, qui va de logements destinés aux plus modestes, jusqu'à cette petite classe moyenne, qu'on va retrouver dans la cité jardin Ungomar. Au fond, pour lui, la cité jardin Ungomar, c'est d'une certaine manière le joyau d'un portefeuille de logement social qui permet de baliser toute une partie du corps social.
Il faut dire aussi qu'il est marié avec Suzanne Gounel, qui est la fille d'Elie Gounel, qui est un adepte du protestantisme social. Donc on est vraiment dans une...
Voilà, Dachert, oui, absolument.
Oui, Alfred Dachert, pardon, oui, on avait quitté Perrotte. Et ce Dachert, il a quand même au moins une double personnalité, on va dire, puisqu'il s'appelle aussi Abel Rufnak. Et là, c'est son nom d'écrivain. Et on va découvrir qu'il a écrit énormément, finalement, de livres que vous citez dans le vôtre, Paul-André Rosenthal, Vignoble du Juste, La Cathédrale Architecte, Le Val l'Évêque. Vous les avez lus. Et oui, qu'est-ce que vous en tirez comme son idéologie apparaît là?
Voilà, absolument. Alfred Dachert, c'est un homme d'affaires, mais c'est un homme d'affaires qu'il est devenu un peu contre son gré. C'est-à-dire, son père était ruiné, il a pu aller jusqu'au baccalauréat, ce qui à l'époque le place dans une toute petite élite, et lui donne une très grande formation classique, mais il n'a pas pu aller à l'université. Donc il est entré dans les affaires, mais il est pour moi une figure très intéressante, qui est une figure au fond avec des idées qui aujourd'hui sont évidemment assez anachroniques, mais sa position, elle, est très contemporaine. C'est celle d'un homme pour qui la vraie vie est parallèle au monde du travail. Sa vraie vie, c'est une vie de créateur, c'est une vie de poète. On est dans un monde dans lequel la poésie est l'une des formes d'expression les plus légitimes, les plus valorisées. Et donc, en parallèle à son activité d'homme d'affaires, de confiseur industriel, il écrit des poèmes et il écrit surtout des tragédies. Un cycle de tragédies. Il a été formé dans l'Alsace allemande, il est germanophone et germanique de culture. Il écrit un cycle de 7 tragédies, qu'il appelle en allemand le chant du devenir. Et la caractéristique de ces 7 tragédies est qu'elles sont eugénistes. Il n'est pas le seul. À l'époque, en Angleterre, aux États-Unis, il y a un vaste théâtre eugéniste, et Dachert y contribue. Et effectivement, pour moi, c'est très intéressant de voir que cet homme qui a planifier cette cité-jardin eugéniste avec des dispositions très pensées, comme vous l'avez mentionné en début d'émission, cet homme, au fond, conçoit, élabore son projet dans le langage de la poésie tragique.
Effectivement, vous avez raison de replacer tout ce mouvement eugéniste, hygiéniste, populationniste, avant l'expérience nazie, qui malheureusement est redoutable dans l'application de l'élimination de tous ceux qui ne conviennent pas et qui va complètement plomber le mot eugéniste sans voir les différentes évolutions qu'il y a eu au cours depuis Galton qui a proposé ce terme. Et on va y revenir tout à l'heure, bien sûr, pour une discussion sur l'eugénisme. Restons sur cette expérience, donc étonnante, que vous avez exhumée par vos travaux. Les résultats de tout ça sont un peu flous, quand même. C'est-à-dire qu'on dit qu'à 4-5 ans, les enfants sont plus beaux, semblent plus... Je ne veux pas dire plus intelligents, parce qu'il n'y a pas de critères. Mais enfin, voilà, ils ont un poids, une taille, enfin, ils sont bien nourris, ils se développent de façon tout à fait correcte. Mais ce qui est étonnant, c'est la permanence de l'inspection. C'est-à-dire que si on ne conçoit pas, eh bien, on a un avertissement. Et au deuxième avertissement, on menace même de réaugmenter les loyers, et en tous les cas, gentiment, on demande de quitter, de laisser la place à d'autres. Parce que, évidemment, avec l'âge venant, on a fait son plein d'enfants, alors est-ce qu'on peut rester indéfiniment pour sa vieillesse dans ces lieux ?
Alors, les résidents de la cité, effectivement, du point de vue des concepteurs, et en particulier d'Alfred Achert, ce sont des gens qui participent à une expérience. Je n'ose pas dire que ce sont des cobayes, mais en tout cas, ils servent à mettre en œuvre une expérience. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont sélectionnés, hein, c'est ce que permet le fait d'offrir un loyer très intéressant financièrement. Donc le mot sélection, lui aussi, comme le mot eugénisme, on va le retrouver dans les pires circonstances associées au nazisme. Ces résidents sont sélectionnés, on y reviendra peut-être encore un petit peu. Mais une fois qu'ils sont admis, ils sont pas du tout au bout de leur peine. Ils font l'objet d'une inspection annuelle par une commission à laquelle participe Alfred Dachert, mais également des agents municipaux. Hein. C'est très important de dire que d'emblée, même si jusqu'en 1950, cette cité est administrée par une fondation privée, les autorités municipales et préfectorales, donc l'État, sont représentées dans le conseil d'administration et dans la gestion, si on peut dire, de cette cité-jardin. Donc tous les ans, les ménages sont inspectés à une date surprise, hein, c'est par surprise. Ils s'engagent dans le contrat de location à laisser accès à leur pavillon, à cette commission d'inspection. Ils sont inspectés, ils sont notés. On note en particulier justement l'ordre et la propreté, d'où les résultats chiffrés que moi j'avais trouvés dans la fiche, sans bien comprendre ce que ça voulait dire, que les résidents devenaient de plus en plus propres et ordonnés. On vérifie également qu'ils continuent à satisfaire aux conditions de l'expérience, notamment l'interdiction du travail de l'épouse. Hein, on tient à ce que vous l'avez dit, l'épouse est obligée de travailler. Si elle se met à travailler, elle perd immédiatement, le ménage perd immédiatement le droit.
Il faut qu'elle se consacre aux enfants.
Voilà, on va y revenir, c'est assez intéressant, parce que ça n'est pas biologique, c'est beaucoup plus psychologique. Hein. On considère qu'elle doit s'occuper elle-même. C'est quelque chose d'assez intéressant derrière cette obligation. Et l'un des critères majeurs, c'est, comme vous l'avez dit, de rester, si on peut dire, biologiquement utile. Donc au-delà de 45 ans, les couples sont tenus de rendre leur pavillon, mais ont le droit de le transmettre à l'un de leurs enfants. Là, on retrouve la biologie, on retrouve les conceptions héréditaristes de l'époque. On considère que des parents qui ont accompli leur tâche procréatrice, qui ont mis au monde un bon nombre d'enfants et qui les ont leur fait atteindre l'âge adulte, et bien que leurs enfants seront dotés des mêmes vertus. Et puis, on s'assure qu'ils continuent à procréer. Et donc, on voit, ces rapports d'inspection sont consignés dans les archives, donc on voit dans l'entre-deux-guerres, tel couple n'a pas eu d'enfant depuis un certain temps, donc il est tenu de mettre un enfant au monde. En général, on donne un délai d'un an et demi à peu près, et puis on vérifie que la procréation, il y a eu lieu, et tous les couples qui sont ainsi avertis, soit exécutent l'instruction, soit quittent le pavillon. Dans l'entre-deux-guerres, il y a un contrôle systématique découlant de cette inspection.
Alors, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette fondation et dans ce lieu des jardins d'Ungemarkt pendant la guerre, 39-45, avec l'Alsace qui redevient allemande.
Voilà. Alors, c'est une question, lorsque je préparais ce livre...
Que dans votre livre, c'est un peu évoqué, mais... Pas vraiment, c'est presque le sujet d'un autre ouvrage.
Alors, c'est vrai que on m'a beaucoup posé la question pendant que je préparais le livre, donc j'ai fini par m'y affronter. C'est une question complexe, puisque tout ce qui concerne l'histoire de l'Alsace pendant la Deuxième Guerre mondiale est d'une complexité infinie. Mais en tout cas, bon, je me suis attaqué au problème. Donc, effectivement, on pouvait se dire, pour les nazis, c'est une expérience extraordinaire, ils vont la transformer en Lebensborn, en systématisant encore plus les choses. Et en réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est très surprenant. Ce qui intéresse l'occupant allemand, c'est que la cité-jardin est un magnifique cadre de vie. Et les Allemands tirent parti d'un fait assez étonnant qui se produit. En 1939, lorsque la guerre éclate entre la France et l'Allemagne, toute la zone frontière de l'Alsace est évacuée. Tous les Alsaciens qui vivent à la frontière sont évacués vers l'intérieur. Et donc Strasbourg tout entier est évacuée. C'est une ville vide pendant un an, et donc la cité jardin est vidée de ses habitants. Et en juin 1940, lorsque la guerre est finie, lorsque l'Allemagne a pris possession de l'Alsace, eh bien, les résidents peuvent revenir, mais ils ne reviennent pas tous. Donc une partie des pavillons reste vacant. Et c'est l'occasion pour l'occupant allemand de les affecter soit à des officiers de la Wehrmacht, soit à des collaborateurs. Et donc, l'usage qu'ils font de la cité Ungemarkt n'est pas du tout un usage idéologique ou, entre guillemets, scientifique. C'est un usage purement prédateur. C'est ça qui se produit, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Parallèlement à ça, il existe une fondation, qui est la Fondation Carrel, donc du nom de Alexis Carrel, qui va défendre, en dehors de son prix Nobel, va défendre donc les idées eugéniques. Et cette fondation, donc, pendant le régime de Vichy, comment va-t-elle interférer ? Va-t-elle interférer avec ce projet ?
Alors, la Fondation Carrel, elle est maintenant bien connue des historiens. C'est une espèce de gros institut, on pourrait dire sociobiologique, hein, on emploie le terme aujourd'hui, avec également un peu d'économie politique. Moi, l'interprétation que je donne, c'est qu'il vient en quelque sorte, c'est un petit peu la réponse vichysoise à la création du CNRS à la fin de la Troisième République. Hein. Le CNRS, institution très républicaine, et bien en face, on crée cette Fondation Carrel très sociobiologique. Il n'y a pas d'interaction directe, en tout cas à ma connaissance, avec la cité Ungemarkt, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue, là aussi, entre guillemets, savant, la Fondation Carrel vient, par ses chercheurs, éclairer ce qui plaît dans les cités-jardins Ungemarkt, à travers une notion développée par donc une partie de ces démographes ou économistes. La notion de souche saine et féconde. Moi, quand j'avais travaillé sur la Fondation Carrel, on retrouve cette notion en permanence. Les politiques démographiques françaises devraient avoir pour but de favoriser les souches saines et fécondes. Et j'avais du mal à en trouver des incarnations concrètes. Et au fond, ce que j'ai compris, c'est que ce mot d'ordre, cette doctrine, est en quelque sorte illustrée par ce qui se passe dans la cité Ungemarkt, c'est-à-dire des souches saines, c'est exactement le projet de Dachert, identifier des ménages qui sont de qualité, morale, humaine, etc., et fécondes, on va leur faire obtenir un nombre d'enfants élevés.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Vous êtes sur France Culture, les discussions du soir de René Friedman en compagnie de Paul-André Rosenthal, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous venez d'entendre Gracias a la vida de John Baez parce que nous parlons de la vie des enfants, de la fécondité telle qu'elle était en tous les cas instiguée, on va dire, enfin complètement provoquée dans cette merveilleuse, entre guillemets, cité jardin de Ungemarkt, où les locataires qui étaient sélectionnés sur leur capacité de reproduction devaient fournir des bébés à la ville, entre autres. Est-ce que cette expérience-là a été menée autre part ? En particulier, vous citez, je crois, un moment Bagneux, la Pax. Est-ce que c'est quelque chose qui... ce quartier, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente ou ça n'a pas été repris ?
Alors, une partie. Qu'est-ce qui explique que des résidents acceptent ces réglementations contraignantes? C'est que c'est pas du tout forcément qu'ils aient un accord idéologique avec l'expérience. C'est que d'abord, on est dans un monde dans lequel ces réglementations dans l'accès au logement social sont très diffusées. Ça n'est pas le principe de la réglementation et même le principe du contrôle. On le retrouve dans des quartiers de logements sociaux municipaux. On le retrouve aussi beaucoup dans le logement patronal. Il y a simplement certaines caractéristiques propres à Ungemach, mais qui, je pense, pour les résidents, sont en quelque sorte noyées dans un ensemble qui est familier. Alors, ce qui ressemble sans doute le plus en France à cette expérience, c'est un autre quartier qui a été développé à côté de Reims, qui s'appelait le Chemin Vert, dans lequel, là aussi, vous avez un patron local qui cherche à encourager la fécondité. Donc là, il y a un certain nombre de points communs, mais qu'en même temps, une différence majeure que vous avez énoncée au tout début de l'émission, c'est que dans cette cité rémoise, comme dans beaucoup de cités-jardins, il y a d'abord un objectif social. Il y a d'abord un objectif d'intégrer les résidents à ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté sociale, qui est celle de la France, qui est celle de la République. Ce qui est très particulier dans la cité Ungemach, c'est d'avoir une expérience entièrement centrée sur la reproduction. Ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est même à ce point exceptionnel que la revue fondatrice de l'eugénisme, qui est une revue anglaise qui s'appelle Eugenics Review, consacre plusieurs articles à la cité Ungemach et y voit véritablement un modèle en disant enfin une réalisation de ce qu'on appelle à l'époque, c'est une expression qu'on utilise encore parfois aujourd'hui, l'eugénisme positif. C'est-à-dire l'eugénisme, disent les Anglais, on nous reproche toujours de vouloir nous débarrasser des gens qui ne nous plaisent pas, les aliénés, etc. Et bien là, enfin, voilà une réalisation positive d'eugénisme. Donc, elle est donnée en modèle, elle est donnée en exemple en Angleterre et également dans cette autre grande terre de l'eugénisme qui sont les États-Unis. Vous avez des articles dans le New York Times sur la cité Ungemach. Donc elle a une vertu exemplaire pour le milieu eugéniste international qui est foisonnant dans l'entre-deux-guerres.
Puisque vous avez abordé la question, c'est vrai qu'on distingue classiquement, mais vous, justement votre ouvrage remet un peu les choses en question. L'eugénisme négatif, l'eugénisme positif, c'est-à-dire l'eugénisme négatif qui culmine avec l'horreur du nazisme, mais c'est aussi, en dehors du nazisme, l'élimination, c'est-à-dire l'élimination de ceux qui sont susceptibles de développer ou de transmettre une tare héréditaire, génétique habituellement, ou un comportement, et ça va être les expériences redoutables de stérilisation des anormaux ou bien des porteurs de maladies héréditaires qui sont prônés parfois ouvertement par certains scientifiques. On parlait de Alexis Carrel ou de Ernest Rudin, et qui se pratiquent aussi bien en Suède, en France, aux USA et en Suisse. Donc des pays qui sont loin du nazisme en tant que système politique, mais qui va appliquer donc cette idée de l'élimination de ce qui n'est pas bon. Et là, on connaît les excès, évidemment, qui va permettre à un État de décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quand il est totalitaire, pour l'ensemble de sa population, et qui va l'imposer. Et puis, il y a ce qu'on qualifiait, mais peut-être vous le remettez en question, de l'eugénisme positif, c'est-à-dire éviter ou prévenir, plutôt qui se base plutôt sur la prévention et qui va développer tout ce qui est hygiène, vaccination, information sur l'alcool, sur le tabac, enfin éviter les conséquences de cela qui produit, on le sait, des grandes difficultés de vie et proposer le logement, l'intégration aussi dans un vivre ensemble qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec les problèmes de logement social dans certains quartiers de Paris, mais c'est pas le sujet tout de suite. Donc un eugénisme préventif, hygiéniste, un peu à la française, qui s'établit, et dont on va voir qu'il va, à mon sens, très loin, y compris aujourd'hui, et qui mérite une discussion sur toutes les techniques et de reproduction en particulier. Vous évoquez dans votre livre, Paul-André Rosenthal, Les destins de l'eugénisme, vous évoquez aussi ce qu'on appelle l'eugénisme privé, en faisant la distinction entre individus et nations. Qu'est-ce que vous pensez que cet eugénisme privé est une façon de se faufiler ?
Alors, l'eugénisme privé, c'est une expression que l'on trouve aujourd'hui dans la littérature de sciences sociales, au sens large, pour essayer, au fond, de penser l'application contemporaine des techniques d'aide à la reproduction et également pour essayer de comprendre, au fond, essayer de qualifier, de penser le fait que on a le droit dans les démocraties contemporaines de renoncer à une grossesse si des défauts génétiques sont détectés. Donc, il y a un grand débat dans la littérature autour de toute la question de l'éthique pour savoir si ces techniques qui consistent à se débarrasser des embryons qu'on juge non désirés, ont quelque chose à voir ou pas avec l'eugénisme. C'est vraiment un très grand débat, et c'est un débat à la fois intellectuel et évidemment éthique. Alors, l'argument central, pour les auteurs qui parlent d'eugénisme privé, qui est vraiment une manière d'essayer de comprendre ce phénomène, consiste à dire... Pour partie, ça ressemble à l'eugénisme du 1er 20e siècle, parce que ça ressemble à ces questions de stérilisation, par exemple, que vous avez mentionnées. Mais en même temps, c'est radicalement différent, parce que cet eugénisme du 1er 20e siècle, il se légitimait au nom d'une espèce d'intérêt collectif, l'intérêt de la nation, l'intérêt chez les nazis de la race, de ce qu'on pensait être la race aryenne. Alors que de nos jours, il s'agit simplement... d'une décision individuelle qui consiste tout simplement pour des ménages à vouloir avoir accomplir un projet familial qui soit le plus serein possible.
Est-ce que c'est ce point-là que vous développez dans la psychologie du développement personnel ?
Alors, voilà, moi j'essaye de reprendre cette question par un autre bord. D'abord, en tant qu'historien, je suis très sensible au fait que dans ce débat, les historiens occupent une position sont convoqués, si on peut dire, de manière extrêmement paradoxale. L'histoire est convoquée dans ce débat uniquement, si j'ose dire, à travers la chose la plus grave sur laquelle on puisse réfléchir, qui est la question, justement, de l'extermination, des politiques d'extermination nazie. Donc, l'histoire, en quelque sorte, est convoquée comme une espèce d'argument d'autorité. C'est-à-dire, l'eugénisme a été associé au nazisme, et donc tout ce qui rappelle l'eugénisme est dangereux. Alors moi, je pense qu'effectivement, tout ce qui rappelle l'eugénisme est dangereux, mais que cette manière-là de convoquer l'histoire ne suffit pas. Elle est, en quelque sorte, quelque chose qui vient empêcher le débat. Moi, j'ai essayé de tirer un autre fil, et je pense que, enfin, j'espère en tout cas que c'est l'un des fils, disons, originaux dans ce livre. Tout à l'heure, vous avez mentionné la place donnée à la mère de famille dans la cité Ungemar. Quand on y réfléchit, elle est très paradoxale. La fondation Ungemar essaye de sélectionner des couples dont elle escompte qu'ils auront beaucoup d'enfants et des enfants de qualité en se référant à un certain nombre de paramètres héréditaires prêtés au mari et à son épouse. Ça, c'est la biologie, ça, c'est l'hérédité, c'est les choses qu'on connaît bien quand on parle d'eugénisme. Mais à partir du moment où on dit la mère de famille doit rester dans la maison, doit s'occuper des enfants, on touche quelque chose de très différent. On touche à la psychologie. On touche à l'idée selon laquelle c'est la mère qui va être en mesure, beaucoup mieux que toute forme, toute assistante maternelle, par exemple, qui viendrait se substituer à elle, c'est la mère qui va être la mieux en mesure de permettre l'éducation de ses enfants. C'est une considération psychologique. Quand on remonte le fil de l'eugénisme, il est né en Angleterre, dans un pays démocratique à la fin du 19e siècle, chez des élites qui se méfient un petit peu de la démocratie politique. Quand on remonte le fil de l'eugénisme anglais, quand on lit les textes, on est très surpris par deux choses. D'abord parce que les eugénistes anglais du début du siècle, ils nous décrivent le monde d'aujourd'hui. Ils ont imaginé les techniques de procréation artificielle. Ils se sont posé des questions aussi. Leur grande obsession, c'est que les couples mariés soient les mieux choisis possibles, que le mari et la femme se choisissent le mieux possible. Donc, ils discutent beaucoup, par exemple, de la mixité à l'école. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. En se disant, si on connaît l'autre sexe jeune, eh ben, peut-être qu'on formera des couples meilleurs. C'est très, très étonnant, comme laboratoire de pensée. Mais cet eugénisme anglais originel, il est également une théorie psychologique, psychosociale. Moi, j'ai tendance à dire que le rêve des eugénistes anglais de la fin du 19e siècle, c'est de fabriquer une société de gentlemen et gentlewomen, si on pourrait dire. C'est vraiment une théorie extrêmement psychologique. Et ce fil psychologique a été très oublié dans l'histoire longue de l'eugénisme. Et au fond, l'eugénisme, il a deux histoires parallèles. Il a une histoire liée à la science de l'hérédité, qui va devenir progressivement la génétique. Mais il a aussi une histoire qui est le rêve de fabriquer des êtres humains qui soient, si on peut dire, plus structurés, qui contribuent plus à l'ordre, à l'épanouissement de la nation, de la communauté à laquelle ils appartiennent, mais également, c'est très étonnant, même chez quelqu'un comme Alexis Carrel, dont on parlait tout à l'heure, qui est un eugéniste très dur, très radical, il y a l'idée selon laquelle l'eugénisme est la théorie qui va aider chaque individu à tirer le meilleur de lui-même. Il faut, dans l'eugénisme, il y a l'idée de, qu'on va, grâce à l'eugénisme, donner le meilleur de soi-même. Il y a une dimension individuelle, dimension d'accomplissement, qui a été oubliée dans une large mesure dans l'histoire de l'eugénisme, mais qui est oubliée également dans le débat contemporain, me semble-t-il.
Alors, pour continuer cette réflexion avec vous, Paul-André Rosenthal, Incidence 12, revue de philosophie et de littérature, va sortir cet automne, tout de suite, La mesure de la valeur humaine. Donc, on retombe sur cette appréciation. Qu'est-ce que la valeur humaine? Jusqu'où peut-on aller dans cette appréciation? Mais est-ce que le temps presse? Nous n'avons pas le temps de revenir. Peut-être ce sera l'occasion de rediscuter. Est-ce que c'est pas une façon de proposer un eugénisme à visage humain?
Alors, l'eugénisme à visage humain, c'est ça qui plaisait avec la cité Ungemar de Dachert. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que depuis les années 70, je dirais que dans les sociétés démocratiques contemporaines, nous avons appris, nous avons tiré la leçon, et nous savons que toute ambition sociobiologique appliquée aux politiques, appliquée à la régulation des sociétés, est extrêmement dangereuse, contient un risque de dérive. Je pense que ça, c'est un acquis tardif hein, quand on y réfléchit. On pense toujours que l'eugénisme a disparu en 1945 avec la destruction du nazisme.
Mais en fait, c'est 1980 où il y a...
C'est vers 60, voilà. Voilà. Pendant une génération, l'eugénisme a survécu et justement, entre en gros 45 et les années 60, au début des années 70, on essaye justement de faire un tri entre ce qui serait un bon eugénisme et un mauvais eugénisme. Et puis, dans les années 70, les digues cèdent et on se rend compte qu'il y a un danger inhérent à proposer une conduite sociobiologique de la société. Et il y a un effet de sidération à cette époque-là, et il y a aussi un effet de sidération lié au fait que dans les années 70 resurgissent aux États-Unis des lectures eugénistes très racistes, hein, qui il y a un débat permanent qui continue d'ailleurs à courir aujourd'hui sur la prétendue infériorité des populations afro-américaines en termes de quotient intellectuel.
Alors, nous voilà à la fin de notre émission. On voudrait bien sûr citer Dagmar Wennberg, que vous évoquez comme personnage extrêmement militante. Michel Foucault, j'en profiterai juste pour dire de Jürgen Habermas, qui incrimine le designer, hein, celui qui, à titre personnel, aiguille, selon ses préférences, la vie et l'identité d'une autre personne, sans même supposer qu'il ait à obtenir l'accord de celle-ci. Ça nous renvoie un peu à la génétique, à la reproduction médicale moderne, où c'est devenu possible et où, justement, il y a une réflexion sur les barrières nécessaires, peut-être à ne pas, même sûrement, à ne pas transgresser. Voilà, nous sommes donc en discussion qui n'est pas terminée avec Paul-André Rosenthal et nous avons, grâce à Agnès Debrun, Catherine Donnet, Pascal Bénard et Didier Lagarde, obtenu cette émission que vous pouvez podcaster et la réécouter sur le site internet de franceculture.fr. La semaine prochaine, nous serons avec Delphine Horwiller, femme rabbin, et nous parlerons aussi de filiation et de procréation.